L'idée de la condition d'Israël qui porte cette histoire, qui vit cette histoire, qui l'assume, eh bien, c'est la condition de l'homme, de l'identité humaine tout entière, de l'histoire de son exil du paradis. Lorsque la relation de fraternité du couple est arrivée à la relation d'amour réussie, alors est enfanté le fils de l'homme qui est capable d'être frère, et l'exil est fini. Ça veut dire aussi, au niveau de l'histoire humaine, la fin des contradictions de l'identité humaine, comme nous le verrons plus en détail demain. Je vous résume avant de conclure les différents points de cette analyse. Premièrement, nous découvrons que la relation du couple a une toute autre finalité que celle de l'engendrement. Elle a la relation de l'engendrement, mais de l'engendrement du fils de l'homme. Il s'agit de fabriquer une identité humaine, et cette identité humaine, elle a pour père l'identité homme. Mais elle a une autre finalité, celle de la construction de la relation d'altérité, de l'apprentissage de la fraternité. Eh bien, nous le trouvons d'abord dans la description métaphysique de l'identité humaine selon la Torah. L'homme est intentionnellement créé diminué, et c'est l'autre que lui, homme pour la femme et femme pour l'homme, qui est son complément. Et par conséquent, ce complément ne peut pas être possédé. Il ne peut être que conquis perpétuellement dans une relation, dans un être de relation, mais pas eu, obtenu, possédé. Si vous voulez, selon la Torah, on ne possède pas sa femme, et chose plus cachée et plus grave, la femme ne possède pas son mari. Mais il y a une relation d'altérité, et c'est dans cet effort-là que la complémentarité se réalise. Cela est vrai aussi au niveau de l'identité morale, dans la relation avec la loi. La loi n'est jamais accomplie une fois pour toutes. Personne n'a pu dire, à moins de se prendre pour Dieu, j'ai accompli la loi. Vous voyez à quoi je fais allusion, n'est-ce pas ? Bon. La loi ne peut pas s'accomplir. Ce qui s'accomplit, c'est la relation de repentir à la faute obligée, étant donné l'être diminué qui est le nôtre. Est-ce que c'est clair ? C'est plus que consolant, si j'ose dire, tout ce que ces maîtres nous enseignent. Enfin, c'est vrai. Et puis, cela est vrai aussi au niveau de la relation sociale, comme nous le voyons. Deuxième point, c'est ce que la Torah nous raconte lorsqu'elle nous raconte l'histoire des familles des patriarches. Cet effort de construction du couple, et c'est quand c'est réussi que le Fils de l'homme apparaît. Le premier digne de ce nom a été Joseph. Et nous retrouvons l'autre aspect de ce thème, la relation fraternité, demain soir. Et après demain soir, deux textes de la Gemara où nous retrouvons toutes les analyses qui ont été les introductions à la lecture. Maintenant, vous avez la parole. Oui. Alors, une minute, oui, j'avais oublié. Vous avez vous-même compris pourquoi maintenant la Torah ne nous parle pas de la femme de Noé ? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant, bien qu'il ait eu des petits. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout se passe comme s'il n'avait pas de femme, dans le sens d'épouse. Alors on n'en parle pas. Est-ce que c'est clair ? Bien. Oui. Alors donnez-moi 2 minutes. Oui, une minute. Écoutez, s'il y a...
Non,
ça va, c'est fini. Écoutez, s'il y a dans la salle des personnes qui doivent sortir, eh bien, faites-le immédiatement qu'on puisse enchaîner sur les réponses. Alors, vous avez la parole. Mais parlez fort que tout le monde entende la question.
D'accord. Vous avez tout à l'heure, en parlant de la création de l'homme, dit que c'est au niveau du monde de la Asiya que l'homme et la femme ont été créés mâle et femelle. seulement, dans le texte, il est marqué Naase Adam Betsalmelou et puis Zahar Unkeva Baha Otam. Alors, il y a écrit Naase au moment où il s'agit du projet Adam, et ensuite c'est le verbe Baha qui est employé pour Zahar Unkeva. Si vous pouvez expliciter ce point.
Bien. Bien, je vais répondre à la question, mais ça marche pas. Quoi. J'arrive pas à sortir. Écoutez, vous m'excusez vraiment, mais j'en ai parlé.
Comment ?
Non.
Mais qu'il n'ouvre pas maintenant, parce que là, tu risques de vraiment. Ah, la botte, hein ?
Bien, un petit peu. Mais il marche plus le micro.
Ah, si, il marche. Il marche comme il a marché. Jusqu'à maintenant, je vais m'en mettre un petit peu.
Écoutez, je vais quand même essayer de parler. Debout, c'est peut-être plus. Voilà, la question qui m'a été posée est la suivante. J'ai dit tout à l'heure que, selon la Torah, il est clair que la différence entre Zahar et Nkeva, c'est-à-dire entre mâle et femelle, n'est qu'au niveau des corps. Et alors, la question qui m'a été posée, c'est que le verset dit « Naase Adam », donc « Olam Asiya », « Faisons l'homme », « Betsalmenu Kidmotenu », selon l'image que Dieu s'en est fait. Et la fin du verset dit Zaharun Keba Braham, il les a créés donc Baraotam. Il y a un autre verset qui dit Braham. En employant le terme de Bara qui renvoie à un monde d'identité supérieure. Ça, cette question est donc une objection apparente par rapport à ce que je dis. En réalité, ça confirme. Je vais vous le montrer en hébreu très simplement. Je m'excuse d'ailleurs pour ceux qui n'arrivent pas à suivre à cause de la langue. Et je vous demanderai d'ailleurs d'éviter des questions trop spécialisées de ce genre. Ça signifie au contraire que l'homme, qu'il soit Zahar ou Keva, au niveau du Olam Abriya, c'est la même identité. Zahar ou Keva, Bara Otam. Tant celui qui sera Zahar que celui qui sera Nkeva est Adam au niveau de Abriya. Pour le dire en termes français, tout se passe comme si un homme, c'est au niveau des corps, un mâle et une femelle, mais à la fois un Adam. Un mâle et une femelle à la fois, mais que l'âme est commune et que ce n'est que dans la manifestation dans le monde extérieur. Bon. Alors, la difficulté de la rencontre des couples qu'on appelle Zim ou Grishon, c'est que ces exemplaires de l'identité de chaque âme sont distribués au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, comment dire, la rencontre est si difficile à réussir, si j'ose dire. Enfin, la Gemara traite de cela. Mais l'objectif, si vous voulez, de la finalité de la réalité du couple, quel que soit le support existentiel, provisoire de ce monde-ci, c'est effectivement d'arriver à trouver la réalisation de l'identité homme dans cet être de relation dont ces analyses nous ont parlé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que nous avons vu dans ce livre ? Oui.
Comment
peut-on
utiliser le terme
Icar
qui renvoie à cette notion de l'avoir?
Vous citez ici un verset dont je n'ai pas parlé.
Oui, c'est rien.
Voilà. Alors écoutez, là, il faudrait que nous reprenions pour avoir une réponse circonstanciée. Tout un thème d'une Gemara de Kiddushin, je vais simplement vous le dire en survol. Le terme qu'emploie la Bible pour dire se marier, dans le verset que vous avez cité, c'est prendre femme. Or, la Mishnah, lorsqu'elle parle de la procédure du mariage, dit acquérir. Le terme de la Torah, c'est la koah, prendre. Tandis que la Mishnah va dire acquérir. Et la Gemara pose la question. Pourquoi la Mishnah a dit acquérir, ce qui risque de signifier acheter, d'ailleurs, alors que la Torah avait dit prendre? Et elle pose une deuxième question. Et si déjà cette Mishnah dit acquérir, pourquoi une Mishnah suivante va dire consacrer par mariage, consacrer un tout autre mot, le Kadesh? Alors pour la première question, la Gemara répond. Parce qu'étant donné que la loi va habiliter le mariage par désir de l'autre, il faut dire acquérir, parce que la relation par désir est une relation de, comment dire en français, prendre une femme avec de l'argent, qui est le prix du désir, le prix payé pour le désir, c'est une relation de prostitution. Alors il faut dire acquérir, ce qui signifie prendre pour toujours, à cause de cette habilitation d'une des manières du mariage, par le désir de l'autre. C'est-à-dire, pour la Torah que je vous cite, pour la Gemara que je vous cite, c'est une première approche de l'autre, par le désir de l'autre, que la Gemara considère comme très inférieure, mais qu'elle habilite à une condition, qu'elle soit définitive, et c'est pourquoi elle ne dit pas, la Mishnah ne dira pas prendre, comme a dit la Torah, mais acquérir, parce que la Torah Shebaalpeh a habilité le fait que l'on peut prendre par désir, à condition que ce désir se transforme et devienne amour. Est-ce que c'est clair, ma réponse? Voilà pourquoi la Torah a dit Ikikar. Vous savez qu'on raconte, je crois que je vous l'ai cité une fois, que dans l'ordre des traités du Talmud, il y a le traité du divorce avant le traité du mariage. Alors on a l'habitude de dire, sous forme de blague, c'est parce que toujours la Torah donne le remède avant le mal. Mais en réalité, la raison est tout à fait autre. C'est parce qu'on s'occupe d'abord des cas où il y a divorce, pour s'occuper après d'un cas de mariage, qu'après il n'y aura pas de divorce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est ce que veut indiquer la Torah en disant le terme de kinyan et non pas le terme de l'accord. Le vrai terme, c'est l'accord, prendre. Ça veut dire retrouver ce qu'on avait perdu. Mais la Mishnah va dire acquérir, parce qu'une des formes de cette reprise, si j'ose dire, qui est habilité sous condition, c'est le désir. Et que prendre une femme pour de l'argent, l'argent représentant le désir, c'est la prostitution, alors il faut que ce soit définitif, ce qui est indiqué par Kinyan. Enfin, voilà dans quelle analyse vous avez votre question. Alors,
il peut y avoir divorce, Kinyan, la sérénité du couple.
Attendez, c'est déjà une question pour elle-même.
Non, ça c'est
une Alors, je la prends d'abord comme une question. Minute. Écoutez, voilà ce que vous venez de dire. Étant donné qu'il y a l'éventualité du divorce dans le judaïsme, dans le cas de stérilité, ça impliquerait que la fonction du couple, c'est l'engendrement. Mais cette manière, déjà de poser votre future question...
C'est une des fonctions du couple.
Oui. Attendez, avant d'aller à votre seconde question, ça semblerait contredire l'effort de mon analyse. Alors, je ne vais pas vous laisser faire. Je veux dire, je voudrais être bien clair. Selon la Torah, si un couple est stérile et que c'est un vrai couple, ce n'est pas une raison pour divorcer. Étant donné qu'il y a aussi la finalité de l'engendrement, alors on prend une autre femme, comme pour aussi avoir des enfants. Mais comme nous vivons dans une société où le niveau de moralité n'est pas tel qu'on peut réussir la polygamie, alors elle est interdite. Mais... Non, je me suis bien exprimé. Bon. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire que dans le monde du salaire, si j'ose dire, dans le monde de l'être vrai, enfin dans le monde des béatitudes, eh bien, celui qui a réussi dans ce monde-ci à faire la preuve qu'il était capable d'être autrui d'autrui a réussi son identité. Alors, reste la deuxième question, comment il a collaboré à l'histoire puisqu'il n'a pas eu d'enfant ? Alors, dans le cas où la polygamie est interdite, eh bien, la Torah enseigne de façon très claire, sans réticence, que adopter un enfant et l'élever, c'est la même chose. Sans aucune réticence.
Mais s'il n'a pas, c'est-à-dire des descendants, le couple n'a pas de valeur en soi.
Son descendant, c'est son fils adoptif.
Oui, qu'il soit adoptif ou non, mais c'est-à-dire un couple stérile dans l'absolu.
Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Cette identité du fils de l'homme est déjà engendrée dans l'identité d'Israël. Nous l'aménageons. Alors, si un individu ne peut pas participer à l'aménagement direct physiquement, il y a tout un peuple qui s'en occupe. Il n'y a pas de mal. Et votre deuxième question, c'est là. Il y avait encore une autre.
Ah bon.
Oui.
Il y a un mot qui est utilisé, qui est commun pour le mot femme, c'est Shiva et Torah.
Alors, oui, l'adjectif.
Dit que l'homme, enfin le mâle, a besoin de la femelle, pour s'achever, en ce qui concerne l'homme, et comme la femelle a besoin de l'homme, pour s'achever. Alors est-ce que, vu que le mot zot est utilisé pour le mot Torah, est-ce que la Torah a besoin de l'homme pour s'achever?
Bien sûr. Regardez la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Zakkai que je vous ai citée. Si tu apprends beaucoup de Torah, ne t'en enorgueillis pas, parce que c'est pour ça que tu as été créé. C'est ça le pshat de la Mishnah, dans votre question. Vous comprenez le chidouche? Je voudrais expliquer. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'homme pour formuler ce que dit la Torah pour l'existence du monde extérieur, ce n'est pas formulé. La Torah telle que l'homme la formule, elle est la Torah que Dieu nous donne pour que nous la formulions comme ça, parce que sinon personne ne la formule comme ça. J'ai parlé prudemment, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, la Torah en haut est imparfaite, c'est en bas qu'elle est parfaite. Parce que la Torah au niveau des principes, ou au niveau des essences, ne tenant pas compte de la réalité du monde extérieur, c'est pas encore la Torah. La vraie Torah, c'est la Torah Shebe'al Peh, dite de la bouche de l'homme. Et par conséquent, ça veut dire que notre finalité, c'est de formuler la Torah. Donc, de la même manière, j'ai bien compris votre question, c'est un enrichissement d'analyse, de la même manière que nous avons besoin de Zot, étant la Torah, Zot à Torah a besoin de nous. On parle dans les textes de El Bonash El Torah. Lorsque la Torah n'est pas étudiée, on dit qu'elle est veuve, comme une veuve. Le veuvage de la Torah lorsqu'elle est abandonnée. C'est tout à fait ça.
Vous avez dit que l'essentiel n'était pas seulement l'engendrement, mais les bonnes actions de la personne. Alors comment expliquez-vous Rashi qui dit que celui qui n'a pas d'enfant est Rashi Skanek?
Oui, alors écoutez, j'ai pas dit l'essentiel n'est pas l'engendrement, mais les bonnes actions. J'ai dit qu'il y a deux essentiels. Il y a d'une part le fait d'engendrer le fils de l'homme, et d'autre part le fait d'être soi-même un tzaddik. Il y a ces deux dimensions. Et on commence à être tzaddik dans la relation à autrui, si vous voulez, pour compléter la note. Pas seulement Rashi. Rashi, c'est une Gemara qui nous dit qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui peuvent être considérées comme morts, bien que vivants. Une de ces catégories, c'est celui qui n'a pas d'enfant. C'est ce que Rachel avait dit à Jacob, « Donne-moi un enfant, sinon je suis mort. » Et qu'est-ce que Jacob lui a répondu ? « Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'enfanter jusqu'à ce que tu puisses ? » C'est moi qui ajoute « jusqu'à ce que tu puisses. » Parce que tant que le fruit n'est pas à maturité, c'est Dieu qui empêche qu'une approximation soit enfantée. Ce serait monstrueux, ce serait la catastrophe. Imaginez que la matrice enfin trouvée, Rachel, n'enfante qu'une approximation, qu'un pseudo fils de l'homme. Alors Dieu empêche jusqu'à ce que ça soit possible, que ce soit le vrai. Et alors nous revenons à la question précédente. S'il y a, étant donné les conditionnements physiques du cosmos après toute cette histoire qui arrive jusqu'à nous, alors tout ce chaos des échecs qui grève et handicape notre histoire et qui pèse sur, et qui font que nous galgalons d'abord et qu'il y a des matrices stériles, si vous voulez, si on est dans un cas de cet empêchement, alors on ne se laisse pas mourir, on adopte un enfant. Celui qui est sans enfant n'échappe que mais, avec il en est un. Il ne peut pas l'enfanter qu'il adopte un. Vous savez, il y a tellement d'enfants à adopter. Oui. Plus fort. Par exemple.
Par exemple, moi, je veux dire que de nombreux textes, en particulier le Pirkei Avot, par exemple, la Mishnah qui dit ne multiplie pas les conversations avec sa femme. De façon différente, vraisemblablement, de leur lecture normale et traditionnelle dans la vie juive courante.
Bon. Alors, je vais prendre cette Mishnah. Va pour essayer de répondre. Mais d'abord, citer un autre texte de la Gemara qui dit il faut faire attention à tout ce qu'on dit dans la vie. Parce que... Parce que... d'une part, au moment de la mort, quand il y a ce phénomène de la mémoire totale qui revient, et d'autre part, au moment du jugement, le texte dit on répétera à l'homme tout ce qu'il a dit, à filou sicha betela imisto. Même les paroles futiles qu'il a dites à sa femme. C'est-à-dire que rien ne s'oublie. Et le texte dit ceci. Que ta maison soit ouverte en grand pour l'hospitalité et que les pauvres soient fils de ta maison. Et troisièmement, ne parle pas trop avec ta femme. Je me demandais quel rapport entre les trois choses. Yehi betecha patuach la revacha. Que ta maison soit grande ouverte, veiyu anim benebetecha, et que les pauvres soient des enfants de ta maison, veltarbe sicha imaisha. Et ne multiplie pas, sicha, ça veut dire la conversation, c'est-à-dire le flirt d'ailleurs, avec ta femme. Ça veut dire si tu parles avec ta femme, parle des choses sérieuses. Mais, on s'est demandé. C'est ça, sicha. Et on s'est demandé quel rapport ça avait, d'autant plus que la Mishnah continue. On a parlé de sa propre femme. À plus forte raison, la femme de son voisin. Enfin, de son prochain. Et alors, la première question des commentateurs, c'est de dire, c'est à l'envers le raisonnement. On aurait dû dire, c'est interdit, bien sûr, pour la femme du prochain, mais aussi pour sa propre femme. Là, le raisonnement sera à l'endroit, vous comprenez ? Alors voilà ce que ça veut dire. C'est une Mishnah qui dit ceci. Que ta maison soit ouverte à autrui. Et à ce propos, ne parle pas trop avec ta femme, parce qu'elle sera contre. Et qu'elle a raison. Alors ne parle pas trop. Avec elle, de ça. Vous comprenez ? Ça veut dire, lorsqu'il s'agit de pratiquer cette Mishnah, que les étrangers, soit les enfants de ta maison, n'en discute pas trop avec ta femme. Parce que c'est sa fonction d'avoir raison d'être contre. Mais il faut le faire quand même. Alors ne parle pas trop avec ta femme. Bon, alors maintenant, ça c'est un premier niveau. bien, ça veut dire qu'effectivement, dans la relation de dialogue avec Zot, qu'elle soit la Torah, qu'elle soit la Isha, qu'elle soit la Bracha, qu'elle soit la Shrina, qu'elle soit la Tshuva, eh bien, il ne faut pas multiplier les mots inutiles. Marve devarim meviche. Astarbe sicha ima isha. Ça veut dire que la relation d'autrui à autrui, d'une telle vulnérabilité, d'une telle délicatesse, que le flot de parole, enfin, je sais pas, il y a un mot yiddish, je sais pas le prononcer, mais ça s'appelle du schmouth, monsieur Oukazé, en fait, que ça détruit la. Vous voyez, c'est cette espèce de stratégie de la parole qui se multiplie pour ne pas parler. Dès qu'on se rend compte qu'on parle trop, c'est qu'on parle pas. Il y a là un piège qui détruit la relation dialogale, selon l'expression de M. Neher. La parole est le véhicule de cette perfection que l'on cherchait, qui s'appelle Shlemut, qui s'appelle Shalom. On cherchait à tous les niveaux de complétude d'être. Alors, Atarbe Sicha Imaïcha, je vous dirai un peu plus loin, puisque nous parlons de ces choses. Parler avec quelqu'un, c'est parler avec l'autre étant femme. Et c'est réciproque. C'est le mystère du tutoiement. Parler vraiment à quelqu'un, c'est comme si on parlait à la femme qui est le complément. Ceci étant vrai, je sais pas, on est gêné parce qu'en français, ça ne coïncide pas avec la même catégorie. Enfin, je vais essayer de parler par image. Lorsqu'une femme parle à une autre femme, si elle parle vraiment, elle parle à l'homme. Lorsqu'un homme parle à un autre homme, s'il parle vraiment, il parle à la femme. C'est-à-dire, cette relation de la parole est effectivement la relation dialogale. Vous verrez ces choses-là dans les textes de la liturgie, lorsqu'on emploie le féminin ou le masculin, c'est jamais par hasard et c'est pas pour rien. Nous avons appris cela à propos d'autres analyses. L'analyse des pronoms en hébreu, toi est au féminin, moi est au masculin. Mais c'est le problème du tutoiement. Dire tu à quelqu'un, c'est lui parler comme à l'Aïcha. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle le tutoiement est comment dire en français, impudique. À moins que ce soit vrai. Et vous voyez, en hébreu, au masculin, il n'y a pas les deux genres. Lorsqu'une femme dit je, elle dit Annie, comme un homme. Parce que première personne est au masculin. Et lorsqu'on dit toi à un homme, c'est un féminin renforcé. Déjà, at, c'est le féminin, on ajoute hé, ça fait ata. Parce que la position du toi, elle est féminine. Alors lorsque c'est un homme, un mâle, soi-disant, c'est encore plus féminin. Oui. Ceci pour éclairer le fait que dans cette relation de sujet à sujet, la réciprocité consiste effectivement dans la parole. Alors, « Altarbe sicha imaïcha », c'est comme si la Mishnah voulait dire, dans le sens d'une histoire, « Altarbe sicha » tout court, « im » quoi que ce soit qui soit « isha »,« im zot ». Mais je reviens à mon premier pshat, vous savez, c'est un des casse-têtes des commentateurs de la Mishnah, ta Mishnah. C'est qu'effectivement, le point de départ, c'est que lorsque il y a conflit de devoir entre ce que réclame la Torah et ce que réclame l'Aïcha, alors comme on sait qu'il ne faut jamais discuter avec une femme, elle a toujours raison, c'est sûr. Mais comme on sait que l'Aïcha a raison, alors il ne faut pas trop discuter avec elle, parce que ça devient pile-poule et que c'est Harisut Olam, le pile-poule. Prenons par exemple l'exemple de Isha étant la Torah. Altar Besichan ne fait pas trop de pile-poule. Parce que tu vas sortir des chumrot sur chumrot sur chumrot sur chumrot. Et celui qui sort des chumrot sur chumrot sur chumrot, sauf au Yoresh Gehinam. Botel Midibre Torah, Yoresh Gehinam. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ça. Ça veut dire que lorsqu'on parle avec la Torah, avec la femme, avec la Shrina, il faut être sérieux et pas être Marvet Varim. Parce que quand la Marvet Varim, mais vous savez. La dernière chose que j'ai entendue du Rav Kook avant de quitter Jérusalem hier. Hier matin, je me suis réveillé là-bas, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a raconté, je vais vous dire tout ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est un enseignement pour lui-même. On était venu lui dire que quelqu'un voulait acheter un sidour, un livre de prière, mais qu'on a déconseillé à ce quelqu'un d'acheter ses livres de prière parce que l'éditeur, l'imprimeur du livre de prière n'est pas chômeur mitzvot. Alors il s'est mis en colère. Il n'est pas pratiquant. Imaginez un libraire juif qui vend un livre de prière, mais il ne mange pas kasher. Alors on a dit à un de ses élèves qu'il ne faut pas acheter ce sidour chez lui, puisque le vendeur ne mange pas kasher. Il s'est mis en colère et il lui a dit, tu sais, une double folie. C'est une double folie ce que tu fais. Parce que la chose la plus terrible, c'est le lashon hara, de dire du mal de quelqu'un. Alors premièrement, en disant que ce libraire ne mange pas kasher, tu dis du mal de lui, parce que c'est vrai qu'il ne mange pas kasher.